Campus Amiens 87.7.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative, réalisée par Radio Campus Amiens. Vous êtes bien sur le 87.7 FM, sur le DAB+, ou sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sonia et ses invités. Juste après l'interview, on écoutera Stay Long, Sail On de Ciel, et je vous ai préparé une chronique sur la magie disparue de Noël. D'abord, c'est à toi Sonia.
Merci Margot. Alors, à l'occasion de la 29e édition du festival Cité Philo, je reçois Céline Chérissy, professeure des universités en histoire et épistémologie des sciences à l'université. Bonjour à vous.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Et je reçois Francis Foreau, inspecteur pédagogique régional, honoraire de philosophie et président de l'Université populaire d'Amiens. Bonjour à vous.
Bonjour, merci.
Vous êtes également tous les deux au conseil d'administration de Cité Philo en charge de la programmation d'Amiens. Et vous ferez aussi la présentation de plusieurs événements pendant le festival. C'est un festival de philosophie. Cette année, le thème, c'est l'urgence. Les rencontres sont gratuites dans la limite des places disponibles. Et pendant le festival, il y aura plusieurs événements qui seront organisés. Donc, on va discuter de la programmation. Mais avant, pour quelles raisons ce festival a été créé ?
Ce festival existe depuis, à vrai dire, très longtemps, depuis 1999. Et il a été créé pour diffuser, n'est-ce pas, la culture auprès du public le plus large possible. C'est pourquoi les rencontres ont toujours lieu dans des endroits différents. Comme ici, vous voyez, à Amiens, il y aura la Maison de la Culture, il y aura le Logis du Roi, il y a également le musée, et puis, bon, il y a également la bibliothèque municipale, vous voyez.
Et justement, le premier événement sera à la Maison de la Culture, samedi 6 décembre.
C'est bien cela.
De 15h à 16h45. Il a été choisi d'ouvrir le festival à Amiens avec un événement autour de la figure de Jean Cavaillès. Pourquoi ce choix ?
Eh oui, bien, d'abord, vous avez rappelé que le thème de cette année, c'était l'urgence. Or, il était intéressant de s'interroger comment certains penseurs, mathématiciens, philosophes, n'est-ce pas, pouvaient réagir en situation d'urgence. Ici, c'était l'occupation. Vous voyez, bon, voilà. Alors, Cavaillès a été choisi aussi pour une autre raison, et c'est une figure amiennoise, puisque beaucoup ne le savent pas, mais il a enseigné à Amiens. C'est là qu'il a connu, d'ailleurs, Aubrac, voilà. Et il, n'est-ce pas, il s'est engagé dans la résistance, il a eu même des liens avec beaucoup, beaucoup d'Amiénois. Et il s'agit bien sûr de se demander comment un philosophe, en plus mathématicien, pouvait, n'est-ce pas, prendre des décisions en situation d'urgence.
D'accord. Et justement, qu'est-ce qui sera organisé exactement autour de cette figure ? D'ailleurs, les invités seront Alia Aglan, voilà, historienne et professeure d'histoire, et Céline Hervé, philosophe, maîtresse de conférences à l'UPJV.
Bien sûr. Bon, Alia Anglan est effectivement une historienne spécialiste à la fois de la Seconde Guerre mondiale et également de la Résistance. Elle a d'ailleurs écrit un ouvrage sur Cavaillès et bien sûr sur la guerre et sur la Résistance. Elle est donc tout à fait apte à effectivement pouvoir situer, bien sûr, l'action qui a été celle de Cavaillès et de son réseau. Il n'était pas seul. Et il sera donc interrogé, en quelque sorte. Enfin, il y aura un dialogue avec Céline Hervé qui enseigne à l'université d'Amiens Picardie et qui s'est intéressée aussi au personnage et notamment aussi à sa dimension scientifique et comment, n'est-ce pas, un scientifique peut-il réagir en une situation d'urgence exceptionnelle. Donc, intéressant de s'interroger sur l'action en même temps.
Donc, c'est une sorte de conférence-débat ?
Oui, c'est le principe. Hein, ce sont des conférences-débat. Oui.
D'accord. Donc, le deuxième jour, ce sera autre chose. Dimanche 7 décembre, ça va se passer au musée de Picardie. Il y aura d'abord une visite guidée de 2 heures. Ensuite, pendant 2 heures, il y aura une présentation d'un corpus d'artistes autour de l'urgence. Donc, ça sera le thème. L'événement s'appelle l'urgence en peinture au XXe et XXIe siècle. Regard sur la collection du musée de Picardie. Pourquoi utiliser l'art pour parler d'urgence ?
Alors, parce que la question se pose, la création artistique est-elle peut-elle être un acte de résistance ? Et là, on a la chance d'avoir la directrice du Centre de recherche en art et en esthétique, Androula Mikkel, qui va faire les deux temps. Donc, qui, le matin, va emmener le groupe de visiteurs et va choisir un corpus de tableaux qui lui semble correspondre à ce thème de l'urgence et au positionnement de l'artiste. On a quand même des questions très contemporaines sur comment l'artiste se positionne dans les situations d'urgence face aux différentes problématiques qui tournent autour. Et l'après-midi, elle va faire la conférence sur l'urgence en peinture au 20e et au 21e siècle, et à partir de tableaux également du musée de Picardie. Donc on a la chance de la voir, elle prend vraiment en charge toute la journée et elle va pouvoir développer à la fois la pratique dans les galeries du musée et puis la partie plus théorique lors de la conférence.
D'accord, donc les tableaux n'ont pas encore été choisis, elle les choisit le jour même ?
Ah non, elle les a choisis, mais c'est surprise. Voilà, tout est choisi, tout est calé, mais nous allons découvrir en même temps que les personnes qui seront là dès le matin les tableaux qu'elle aura choisis.
D'accord, et la conférence, ça sera une sorte de... Est-ce que c'est une analyse des tableaux ? Est-ce qu'on va parler de l'histoire autour de ces tableaux ?
Alors, je pense que... Alors, si j'ai parlé avec elle il y a encore deux jours. Elle va faire la visite avec l'analyse et l'histoire des tableaux le matin et l'après-midi, davantage recontextualiser ça dans une perspective esthétique, historique, autour de la thématique de l'urgence. Et pas forcément à partir des mêmes tableaux.
D'accord. Et la semaine qui suit, on change de thème complètement, on passe au thème du milieu, enfin, autour du milieu hospitalier. Jeudi 11 décembre, il y aura un événement autour du livre Éthique de l'urgence, Urgence de l'éthique, écrit par Pierre Valette, médecin spécialisé en médecine d'urgence. Il est aussi responsable du SAMU au département du Pas-de-Calais et il est aussi philosophe. Qu'est-ce qui est entendu par éthique de l'urgence et urgence de l'éthique ? À quel point seront abordés exactement ?
Alors, d'abord, son livre est formidable. Voilà, c'est un livre d'épistémologie, de philosophie, qui, à partir de cas concrets de l'urgence, s'interroge sur l'espace de l'urgence, sa temporalité, la vérité, les différentes narrations de l'urgence, et se questionne aussi sur l'urgence du point de vue du patient, qui n'est pas du tout la même urgence que l'urgence du point de vue du médecin, qui n'est pas non plus la même urgence que l'urgence du point de vue de l'urgentiste, du point de vue de ceux qui gèrent les différents services hospitaliers. Donc c'est vraiment un livre à multiples perspectives et on a la chance d'avoir Pierre Valette qui vient nous en parler directement et je pense qu'il va reprendre, alors c'est pas vraiment une conférence sur le livre, hein, c'est aussi sur sa pratique d'urgentiste, mais il va reprendre ses différents espaces. En fait, son livre est découpé en espaces de réflexion et il va reprendre ses différents espaces de réflexion sur ce qu'est l'urgence et surtout ce qu'elle est pour les différentes personnes qui interviennent dans les urgences médicales, que ce soit le patient, les familles qui ont parfois, il le dit, hein, qui ont parfois l'impression d'attendre 3 heures alors qu'elles sont là depuis 20 minutes, toutes ces différences, la relativité du temps. Le temps n'est pas le même pour l'urgentiste, n'est pas le même pour le patient, n'est pas le même pour la famille. Et voilà, enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble très, très, très pertinent. Et en plus, on a la chance d'être reçu à l'Institut Fairface par le professeur Bernard de Vauchel, l'année des 20 ans de la première greffe partielle du visage. Donc, il nous reçoit, il prendra la parole quelques minutes. Mais je pense que ça va être une rencontre très, 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 très riche.
D'accord. Est-ce que, il va parler du point de vue de pratiquement toutes les personnes au niveau de l'urgence dans le milieu hospitalier. Est-ce que ce sera aussi une discussion avec le public ?
Bien sûr, c'est même très important. C'est-à-dire qu'il faut une demi-heure et au-delà, en 30, 40 minutes consacrées à la discussion avec le public, c'est vraiment fondamental. Moi, de toute façon, je suis un peu la variable d'ajustement, suivant combien de temps va parler le professeur de Vauchel, combien de temps veut parler Pierre Valette. Moi, je vais me réguler par rapport à ça. L'idée étant que le public puisse intervenir, tout s'en saoule.
D'accord. Du coup, on change encore de thème. Le week-end, le festival de Cité Philo continue à la Maison du Théâtre. Mmh. Donc samedi 13 décembre, dans le cadre du festival Ma Parole organisé par le Cardan, il y a une journée en partenariat avec Cité Philo et la Maison du Théâtre. Donc l'invité, ce sera Elodie Rubio-Lopez, professeure d'école en REP+, doctorante en histoire et épistémologie des sciences de la vie et enseignante à l'UPJV. Le thème, c'est divers.cité, donc avec un C. À l'oreille, on entend diversité, mais à l'écrit, on a deux mots. Donc qu'est-ce qui sera abordé ce jour-là ?
Oui. Je tiens d'abord à dire que cette rencontre est devenue habituelle dans le cadre de Cité Philo Amiens, puisque c'est même quelque chose d'un peu particulier, puisque là, il s'agit d'un travail qui est fait par le CARDAN, n'est-ce pas, par l'Association de lutte contre l'illettrisme, où ils reçoivent des groupes de personnes qui sont en situation d'illettrisme. Et comme le thème est l'urgence, ils vont travailler avec des acteurs sur ce thème-là et ils vont produire, tous les groupes vont produire des petites scénettes. Ils ont fait donc un travail qu'ils font, qui seront ensuite présentés en première partie, hein, à 14h, bien, et ensuite, Élodie, donc Radio... Rubio Lopez, pardon, je suis à la radio, donc vous voyez, Rubio Lopez va effectivement entamer un dialogue à partir de ce qu'elle a entendu, pour effectivement entamer et les faire discuter, etc. Et bien entendu, comme à chaque fois, le public doit intervenir, n'est-ce pas ? Il s'agit toujours de faire participer le public. Hein. Voilà. Alors, bon, elle va aborder effectivement les différents thèmes de l'identité, de... Donc, plus sur des personnes qui sont dans une situation particulière, n'est-ce pas, pour effectivement voir comment elle diversité, vous voyez, jeu de mots, bien sûr, les cités, vous voyez, ils viennent de groupes d'endroits différents, dans des situations différentes, comment on peut faire cité à travers ça, c'est retrouver effectivement une forme communautaire, c'est de les intégrer en quelque sorte. Donc c'est un travail qui est, je crois, un peu extraordinaire, que nous reproduisons chaque année sur des thèmes différents, bien entendu, et que c'est très émouvant de les écouter. Donc, j'encourage alors, ceux qui le souhaitent de pouvoir venir écouter ces personnes, bien faire des scénettes et répondre à des questions. Et je dois dire aussi que la personne qui va, donc Élodie ici, faire un gros travail, puisqu'elle doit en partie improviser, n'est-ce pas ? Parce que partir de ce qu'elle va entendre.
D'accord. Et les scénettes, vous savez à peu près de quoi... Enfin, qu'est-ce qu'ils vont présenter ?
Ah ben écoutez, je ne sais pas, là, puisque c'est un travail qu'ils font en amont, bien avec des acteurs hein, qui participent au CARDAN, n'est-ce pas ? Et ils vont eux-mêmes créer... Nous allons les découvrir, vous voyez. Et c'est d'ailleurs le but, bien, puisque Élodie va devoir, à partir de là, n'est-ce pas, improviser.
D'accord, donc ça sera la surprise.
Ce sera la surprise. Bon, elle a préparé quelque chose. Hein. Elle sait où elle veut aller, bien entendu. Puisque c'est elle qui a proposé, effectivement, ce très beau titre, Diversité.
Très bien. La semaine suivante, le mardi 16 décembre, cette fois, ça sera la bibliothèque Louis Aragon. Oui. On passe sur un thème juridique avec Valérie Pratt, docteur en philosophie du droit, professeur de chaire supérieure en classe préparatoire. L'événement s'appelle « L'Europe et la paix. Quelle urgence, quelle possibilité ?» Quels points exactement seront abordés ce jour-là ?
Ah bien, écoutez, là, l'urgence, voyez bien, nous sommes dans une situation très particulière de crise. Bien, nous avons connu très longtemps la paix. L'Europe a été faite, n'est-ce pas, pour qu'il y ait effectivement la paix après cette crise, enfin, cet effondrement civilisationnel qui a été, n'est-ce pas, le nazisme, tout cela. Or, nous retrouvons une situation maintenant où la guerre est proche de nous. Nous sommes dans une situation de crise et l'urgence est toujours un moment de crise où il faut prendre des décisions très rapidement, où la décision et l'action sont pratiquement simultanées. Vous voyez ? Donc ici, effectivement, ça suppose une bonne réflexion sur l'Europe. Comment l'Europe aussi est en crise ? On sait bien les retours du protectionnisme, etc. Et donc, que peut devenir l'Europe ? Qu'est-ce qu'elle a été ? Et quelle est la perspective pour que l'Europe se construise ?
Et ça sera du point de vue juridique, donc ?
Oh, oui, et politique. Hein. Juridico-politique, disons. C'est le terme qui convient ici. Il y aura de l'histoire, bien sûr, parce qu'il faut rappeler, beaucoup ignorent les institutions européennes.
Toujours le thème de l'urgence, le lendemain, mercredi 17 décembre, ça sera toute la journée, cette fois, au Logis du Roi, donc urgent comme, et plusieurs thèmes seront abordés, la démocratie, la santé mentale, l'université, etc. Comment va s'organiser la journée ?
Alors, cette journée, c'est un peu mon bébé, puisqu'elle est en collaboration avec l'Université Picardie-Jules Verne et puis le département de philosophie. Et à mon sens, elle illustre parfaitement cette idée de la philosophie dans la ville. Parce que là, on est avec donc toute la journée des chercheurs, voire très jeunes chercheurs, puisque j'en ai deux qui sont en Master 2, qui interviennent, des post-masterants et des doctorants. Et chacun va avoir une quarantaine de minutes pour aller à la rencontre du public, développer une thématique, donc urgent comme... Alors, c'est très divers, hein. Urgent comme le féminisme, urgent comme la perversion, urgent comme la sexualité, urgent comme les vidéos de mort, urgent comme l'université. Enfin, voilà, c'est des thématiques très, très, très urgentes comme la culture populaire. Ce sont des thématiques très, très, très diverses qui vont être abordées. Avec, d'après moi, enfin bon, je me suis déjà réunie avec eux, ça va être passionnant. Il faut venir assister à cette... Enfin, à tout le reste aussi, mais il faut venir assister à cette journée. Et chaque fois, il y aura un temps d'échange avec le public. Voilà, chaque présentation sera suivie d'un temps d'échange avec le public. Et globalement, à la fin, je referai un temps d'échange. Peut-être en fin de matinée et un en fin de journée, un petit peu plus global, avec tous ceux de la table qui auront participé le matin et l'après-midi. Et avec le public.
L'idée, ce serait de présenter, de donner des exemples d'urgence, de donner des témoignages.
Alors, l'idée, c'est que l'urgence, c'est un petit peu comme un polyèdre. Et chacun des 8 participants va prendre une facette de l'urgence et va le développer. Alors, il y a l'éducation, l'université, il y a la santé mentale, il y a le féminisme, je l'ai dit. Enfin, on est vraiment sur beaucoup de thématiques qui rentrent dans l'urgence, y compris des thématiques où on s'y attend un petit peu moins, comme les vidéos de mort. Enfin, voilà, y compris des thématiques auxquelles on s'attend un peu moins. Et tout l'enjeu, c'est de réintégrer ces thématiques dans la thématique un petit peu plus globale de l'urgence.
Très bien. À peu près, dans la même idée, les journées se poursuivent en janvier et en février. Donc jeudi 22 janvier au lycée de Loti et mercredi 4 février au micro-lycée de la cité scolaire de Lambre-Montaigne avec Léo Richard, doctorant en philosophie. Donc cette fois, ce sera l'urgence et la propagande. À quel point c'est important d'informer aujourd'hui sur la propagande ?
Ah bien, écoutez, nous sommes dans une période de désinformation, bien, et donc il est surtout important que des élèves, puisque ça se passe dans des lycées, soient effectivement bien informés sur effectivement les risques de désinformation, justement, et qu'il est urgent. Là, il y a bien une urgence. Eh bien, oui, et puis je signale donc que Cité Philo, bien sûr, se situe dans des périodes précises. À Lille, c'est en novembre, à Amiens, c'est en... décembre. En revanche, pour les lycées, ça peut avoir lieu toute l'année. Hein, toute l'année. Voilà. Et je tiens à signaler que beaucoup d'intervenants qui sont donc des universitaires acceptent d'aller dans des lycées pour rencontrer des jeunes élèves et puis comme ça faire connaître leur savoir, tout cela, sur des thèmes qui sont effectivement très importants.
Très bien. Et donc ça sera sur 2 jours. Comment seront organisées ces 2 journées ?
Ça, écoutez, c'est le professeur qui a organisé ça dans son lycée. Ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est pas privé là, puisque c'est ouvert au public. Mais bien sûr, c'est l'organisation du lycée qui fait ça. Voilà. Bon, à vrai dire, je crois qu'ils vont peut-être s'adresser à des classes différentes. Je crois que c'est ça le thème, l'objet, s'adresser à des classes différentes, des niveaux différents. Et c'est pluridisciplinaire. D'accord. L'enseignant qui fait venir sont donc ces universitaires, eh bien. Fait intervenir également des collègues d'autres disciplines.
Très bien.
Et pas seulement philosophie, je veux dire, voilà.
D'accord. Pour le dernier jour à Amiens, donc jeudi 12 février, ça sera au lycée de la Haute-Oie. Ça sera un événement sur le carnivorisme. Donc ils vont discuter du livre Prostèque, le carnivorisme est un humanisme, écrit par Jean-Claude Poisat aux éditions Albert Michel. Il est aussi agrégé et docteur en philosophie. Il est professeur au lycée Georges Pompidou de Castelnau-le-Nez. En quoi la question du carnivorisme est importante aujourd'hui ?
Je dois vous avouer que je vais aussi découvrir, je vais y aller, je vais l'écouter. J'étais un peu surpris, effectivement. Enfin, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce thème, bien dans la mesure où on se pose la question, vous savez, peut-être, il y a eu des films là-dessus. Hein. Bon, voyez, si effectivement le cannibalisme ne sera pas peut-être un jour une solution pour résoudre certains problèmes. Mais il s'agit évidemment de... Je crois qu'il y a quelque chose un peu de provocateur, là, vous voyez, où on veut se poser la question sur l'urgence, sur effectivement, n'est-on pas conduit à adopter des situations extrêmes ? Peut-on juger, effectivement, comment juger ces situations extrêmes ? Je crois qu'il y a cela dedans. Mais je n'ai pas lu l'ouvrage, donc j'avoue, là, je ne connais pas. C'est l'enseignant qui a choisi cet intervenant qu'il connaît, ça je le sais. Vous voyez bien, mais moi-même, je suis mis devant le fait accompli, ce n'est pas le mot ici, mais j'aurais la surprise de découvrir cela.
Très
au
bien.
Lycée de la Haute-Oie, qui est effectivement aussi un lycée hôtelier. Peut-être le rapport, là, est clair. Donc, si vous voulez aller manger au lycée hôtelier, maintenant, vous pouvez vous attendre à...
Mais sans viande. Sans viande en version végane.
Oui, prenez un plat végétarien.
Voilà, sans viande.
Voilà.
C'est la minute propagande.
Non.
Très bien. Et pour une...
Non, mais je crois qu'il y a quand même une volonté de réfléchir, n'est-ce pas, sur des situations d'urgence où on peut être amené à faire des choix qui sont effectivement extrêmes. Bon, on sait que ça existait. Nous avons tous su, n'est-ce pas, que lorsqu'il y a eu un accident d'avion où les personnes ont survécu pendant... Ils ont effectivement survécu grâce, effectivement, au cannibalisme, il faut dire le terme. Je sais que ça a été beaucoup discuté. Je sais même que le pape est intervenu pour effectivement dire que c'était acceptable dans des situations extrêmes. Vous voyez, nous retrouvons toujours l'urgence, là. Alors après, il faut... Quelle valeur faire intervenir, vous voyez ? Je crois que c'est donc, il ne faut pas s'en moquer, hein, c'est quelque chose qui peut être très, très important, discuter de tout cela.
Oui, bien sûr. Pour une dernière question, est-ce qu'il y a un événement que vous voulez, auquel vous voulez absolument assister et pourquoi ?
Bah, écoutez, vous venez de parler du dernier, pour moi, pour découvrir, n'est-ce pas ? Mais je crois que tous les événements sont évidemment très intéressants. Nous en sommes occupés, donc on sait qu'ils sont bien construits, qu'ils abordent des thèmes qui méritent d'être abordés. Mais effectivement, par curiosité, comme je vous l'ai dit, voilà le dernier thème. En plus, j'aime bien être dans un lycée, puisque j'étais inspecteur. Donc je me souviens de ces rencontres avec des professeurs et des élèves. Donc je vous assure que j'irai. De toute façon, j'irai à toutes les rencontres. Mais celle-là, avec bien sûr, en attendant, effectivement, une surprise.
Ben, alors, moi, je n'irai pas à la dernière. Mais ça, c'est clair. Parce que si tu lis le petit résumé, on est... Enfin bon, bref. Je n'irai pas à la dernière, mais par contre, si je devais... Alors, Élodie Rubio-Lopez, qui fait diversité, c'est une de mes doctorantes, elle est fantastique. Enfin, elle prépare ça vraiment avec une attention toute particulière aux personnes qui vont participer. Donc, c'est vrai que que ce soit pour les personnes qui vont présenter les scénettes ou pour le travail qu'elle a fait autour, ça va être une rencontre très intéressante. Et puis, urgent comme la journée du 17 décembre, c'est quand même de très, très jeunes chercheurs. Il y en a qui sont qu'en Master 2, qui travaillent depuis des semaines pour venir présenter quelque chose de solide. Donc, ça serait bien qu'il y ait du monde. Et en tout cas, moi, je serais très, très, très heureuse et très fière d'y être.
Oui, je reviens là-dessus, puisque ce n'est pas la première année que tu fais cela avec des doctorants, donc de jeunes doctorants, bien, et je trouve que c'est toujours quelque chose d'admirable de les écouter. Beaucoup d'enthousiasme, ils s'impliquent beaucoup, bien, et donc effectivement, si vous voulez voir ce travail fait par de jeunes donc, chercheurs, bien, en herbe encore,
en herbe,
oui. ça mérite, oui, ça le mérite. Il y a un côté parfois un peu naïf...
Jeune, très jeune.
Oui,
bien sûr, on a hâte de découvrir le festival à Amiens. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci de nous avoir
reçu. Merci à vous.
Et à l'année prochaine. Some days I can't leave the door, but in this house of mine I feel fine. Sometimes I don't wanna be no more. You told me in between the lines while we were in the car. Sometimes I can't leave the door. And in this house of mine I can't be no more. My feelings are too much to absorb. I'm not afraid to
écoutiez Stay Long, Sail On de Ciel, toujours sur Radio Campus Amiens 87.7. Déjà bientôt 2 semaines que le marché de Noël s'est installé au centre-ville. Un moment que j'attends habituellement avec impatience, mais cette année j'ai plutôt hâte que ça se termine. Comme si j'avais perdu cette étincelle et que j'avais réussi à alimenter toutes ces années. Alors est-ce que je retrouverai un jour la magie de Noël ? Déjà, d'où vient Noël d'abord ? Peut-être que ça m'aiderait à mieux comprendre pourquoi cette fête est si importante. Reprenons son étymologie. Noël vient de natalis, naissance en latin. On célèbre le solstice d'hiver depuis les Vikings, anciennement fixé au 21 décembre, jusqu'au changement de calendrier solaire par Jules César. Le solstice d'hiver est ainsi défini au 25 décembre, et c'est pour ces mêmes raisons que le 25 décembre marquera plus tard la date de naissance de Jésus. Le Père Noël, lui, est le fruit de plusieurs théories. La plus logique dit qu'il est inspiré de Saint Nicolas lui-même, plus tard appelé Sinterklaas par les Néerlandais, et donc transformé en Santa Claus par les Américains. Il avait l'habitude de distribuer des cadeaux et des vivres aux périodes de fêtes de fin d'année, il y a bien 1700 ans. Notre cher Père Noël apparut pour la première fois sur son traîneau, traîné par des rennes, 1600 ans plus tard, donc dans The Night Before Christmas de Clark Moore en 1821, avant d'enfiler son costume mythique en 1863 grâce au dessinateur Thomas Nast. Petit à petit, la magie de Noël s'installe. Cette fête de lumière, de l'hiver et des cadeaux enchante petits et grands qui se réunissent chaque année pour partager un bon repas, des présents et surtout des bons moments en famille. Mais comme pour tout, aujourd'hui, Noël est aussi synonyme de surconsommation, achats excessifs et dépenses forcées. Je ressens déjà l'inquiétude de mes amis pour leur porte-monnaie à l'approche des fêtes. Et plutôt que de passer un bon moment avec les gens qu'on aime, et pas forcément avec notre famille d'ailleurs, Noël est devenu pour beaucoup un calvaire. Une mission à accomplir, qu'elle nous plaise ou non. Dans cette société moderne, les fêtes de Noël ne s'adaptent plus à tous. Initialement synonyme de partage, de joie et d'amour, Noël nous veut consommateurs, victimes des codes auxquels nous devrions nous plier pour rentrer dans un schéma familial exemplaire. Et si on changeait donc notre manière de fêter le solstice d'hiver finalement ? Qu'on ne se forçait pas chaque année à vivre la même chose, à voir les mêmes gens et à dépenser notre argent dans des cadeaux qui seront sûrement oubliés passé la nouvelle année ? Peut-être qu'on retrouverait ce qu'on appelle la magie de Noël, mais différemment. Pourquoi pas la magie du solstice ? Qu'on revienne à des basiques, comme chez les Vikings. Un événement qui nous réunirait tous, en famille, amis de tous horizons et de toutes convictions. Un moyen de nous rappeler en fin d'année que nous partageons avant tout la vie et pas simplement un repas et des cadeaux pour Noël. En tout cas, avant d'orchestrer la révolution de Noël, de nombreuses associations proposent des solutions aux personnes seules en cette période des fêtes. Par exemple, la Fondation de France a créé les réveillons de la solidarité, des fêtes solidaires et participatives qui permettent de tisser des liens pour un soir ou même sur la durée. Ils soutiennent plus de 235 événements festifs à travers la France pendant les fêtes de fin d'année, dont 200 réveillons de la solidarité au 24 décembre. On retrouve aussi les classiques, donc Resto du Cœur, Secours Populaire et bien d'autres. Pour un peu moins traditionnel, l'accueil froid à Amiens organise aussi le Noël des oubliés. Pourquoi l'appeler le Noël des oubliés ? Ça pourrait être, le solstice, la fête de fin d'année. Tant de façons différentes de célébrer cette fin d'année en tout cas. Alors pourquoi pas changer cette fois ? Peut-être qu'ensemble, on peut construire notre propre magie de fin d'année. Donc sur ces belles paroles, l'Info Club Sandwich prend fin pour aujourd'hui. On se quitte sur une chanson de Noël un peu triste et incontournable. Darlin' Love appelle son cher et tendre à rentrer à la maison pour les fêtes dans Christmas Baby Please Come Home. À demain sur Radio Campus.